rentre dans un contexte, là, puis dans la suite d'une étude. Le titre, c'est « La souffrance dans la vie chrétienne versus l'évangile de la prospérité ». Et cette lettre-là de 1 Pierre a été écrite à des gens qui souffraient beaucoup. Et puis moi, j'ai comme de la difficulté avec ça, la souffrance. Et puis, comment gérer, comment comprendre qu'un Dieu aimant, bon, permette autant de souffrance? Et il y a toute une série d'enseignements un peu qui vont à l'encontre de la souffrance et l'évangile de la prospérité, mais comment faire du sens de tout ça? Je vous partage un petit peu le fruit de mes réflexions. Mais avant, j'aimerais ça qu'on puisse prier. Seigneur, on veut se présenter devant toi ce matin, moi-même, pour te demander la grâce, pour penser clairement, parler en ton nom. Et aussi pour chacun de nous, pour avoir la grâce d'écouter, de recevoir un message qui vienne de toi. Enlève mes erreurs et puis toi-même, Seigneur, par le Saint-Esprit, parle avec puissance pour nous donner des certitudes, pour corriger nos erreurs, pour nous donner du courage aussi face à des moments de souffrance qui arrivent dans la vie et même particulièrement dans la vie chrétienne. Soutiens-nous, Seigneur. On te le demande au nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus. Amen. OK. Ce que j'aimerais, c'est ça, j'avais mentionné, il y avait des gens qui souffraient, puis des fois, ça n'avait pas de sens. Et la lettre de Paul, de Pierre, c'est-à-dire, elle redonne un contexte que, écoute, là, la souffrance en question, oui, tu souffres, mais il y a un contexte à tout ça. Dans le passé, tu as été choisi, conduit, réconcilié à Dieu, qui a payé le gros prix, le total, pour te racheter. Il t'aime. Et oui, tu souffres, mais ça a un but. C'est un test temporaire. C'est une épreuve. Et le Seigneur va être là, il va te soutenir. Mais ça a du sens. Et finalement, tu as un espoir dans le futur, une espérance, un héritage, quelque chose à espérer. Pense-y aussi quand tu souffres. Ça va donner du sens. Alors, il disait tout ce contexte-là. Et là, Pierre, dans notre texte, il va adresser différentes situations difficiles. Puis il va essayer de leur dire comment gérer ça, comment vivre là-dedans. On va lire le texte. Ensuite, on va le passer petit bout par petit bout pour le comprendre davantage. C'est beau? Lisons. C'est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 13. Est-ce que vous préfériez qu'il y ait de la lumière dans la salle? Hein? Les gens veulent peut-être lire dans leur Bible. J'en ai mis une ici, le texte, parce que des fois, on a différentes traductions. Ça dit, « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. » Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché dans la bouche duquel On n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Donc, j'avais mentionné ces textes-là déjà la dernière fois, le 7 juin, je pense. Ça commençait à cause du Seigneur. Parce que dans l'Épître de Pierre, il y a 5 fois « soumettez-vous ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, « soumettez-vous », ça pose problème. 5 fois, il va demander de se soumettre dans différents contextes. Et il commence ici, c'est pas à cause que la personne le mérite nécessairement. Tu le fais à cause du Seigneur. Vous soyez donc soumis à tout ordre humain pour l'amour du Seigneur. Et il y a d'autres textes que j'avais mentionnés qui viennent renforcer cette notion-là de soumission, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc, oui, il y a des irritants dans la soumission, mais il dit, prends un pas en arrière, puis considère que c'est Dieu qui a établi, c'est l'ordre que Dieu a établi. C'est sûr, quand on entend ça, plusieurs critiques, je l'avais mentionné la dernière fois, disent que le christianisme, c'est justement ça. Un système là, pour contrôler les masses. Soumettez-vous au boss. Soumettez-vous au roi. Dites rien. C'est Dieu qui le veut comme ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus dans ce sens-là. Au nom de Dieu. Au nom de Jésus. Des fois, on a abusé des enfants. On a soutiré de l'argent. On a exercé un contrôle politique. C'est vrai. Est-ce que Dieu est au dépourvu face à tout ça? Et le contexte, et c'est ça qui pose problème pour nous, face à la question de soumission, d'autorité. Et la question que je soulevais avant, c'est comment est-ce que je gère ça, ces commandements-là, à me soumettre? Puis des fois, on dit, me soumettre à Dieu, ça passe. Mais me soumettre aux autorités déléguées, des hommes, ça, là, j'ai bien de la difficulté. Ça dépend. Si ça fait mon affaire. Puis Dieu, il dit, non, c'est pas si ça fait ton affaire. Moi, j'ai une idée en tête. Dieu, c'est-à-dire, a une idée en tête. Il a établi des personnes en autorité. Et le contexte dans lequel les autorités qui existaient, on le connaît très bien, il y avait d'intenses persécutions. Ça dit, soumettez-vous au roi. Aux institutions, mais ces institutions-là persécutaient les chrétiens. Bien plus de persécutions qu'on peut en connaître aujourd'hui. Bien, voyons donc. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? D'une façon étrange, dans notre obéissance et notre soumission, dans ces souffrances-là, il veut qu'on démontre comment Dieu nous soutient, comment Dieu passe en premier. Il veut qu'on le glorifie dans ces épreuves-là. Et ces gens-là ont été soutenus d'une façon miraculeuse, ceux qui étaient des torches humaines qui étaient là. Mais, donc, c'est difficile à comprendre, je ne le nie pas. Mais c'est quand même présent comme enseignement, et c'était un contexte autrement plus difficile qu'avec nos institutions d'aujourd'hui. Et Jésus avait vraiment mis en garde bien à l'avance. Hein. Je l'avais mis ce texte-là. Il avait averti de la souffrance. On l'avait lu la dernière fois. Jésus disait, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. » Et ainsi de suite. Fait que Jésus, c'était pas une surprise pour lui. cette persécution-là. Et l'image qu'il voulait qu'on en garde de tout ça, c'était, bon, ça a été patenté, là, c'est pas Jésus qui enseigne ça, mais que la foi victorieuse continue de croire que Dieu, bon, qui est représenté ici par le lion, reste présent et souverain dans nos épreuves. Et pour nous, ça n'a pas de sens, mais par la foi, on peut voir Dieu a son plan, Dieu a son idée. Il me demande d'être fidèle, il me demande de me soumettre. C'est sûr qu'il y avait deux limitations. Une, quand ça allait directement à l'encontre de la volonté exprimée de Dieu dans la Bible. Et on avait vu les apôtres, justement, qui disaient « Obéirons-nous aux hommes plutôt qu'à Dieu? » Et l'autre situation, c'était que des fois, on a des droits et qu'on peut les faire valoir aussi en toute légalité. Paul avait dit « Vous est-il permis de mettre au fouet un citoyen romain pour éviter, justement, qu'il soit battu, fouetté? » Fait que si on continue dans le texte de se comporter en homme libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Fait qu'on pourrait faire autrement. On est libre. Mais il dit, agis comme un serviteur de Dieu. Et si tu as placé là, tu peux-tu faire confiance que Dieu a un but? On va continuer à voir d'autres contextes dans le texte ici. Parce qu'il continue, là, il parle, il s'adresse aux serviteurs. Soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres. Et ce n'est pas simplement là, dans le cas des esclaves qui existaient dans la société d'avant, mais c'est à leurs supérieurs, avec le plus grand respect. Et là, il se précise non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais à ceux qui ont l'esprit pervers ou ceux qui ont un caractère difficile, peut-être arrogant, autoritaire, fâcheux, ingrat. Puis là, soumettez-vous avec le plus grand respect. Là, il dit, c'est une grâce. Une grâce, c'est quoi? C'est un cadeau, une faveur qu'il te fait. Oh, ouais. Ça semble étrange. C'est un cadeau, c'est une faveur que tu me fais en me donnant ce boss-là. Puis de me soumettre là-dedans, puis il dit, je veux que tu marches pour moi là-dedans, dans ce contexte-là, et que tu souffres peut-être injustement. Là, il ne dit pas là, que tu souffres justement, tu n'as pas fait ta job, tu as volé du stock à l'ouvrage, ou tu as volé sur ton temps, puis là, tu te fais engueuler, c'est une autre affaire. Là, il dit bien injustement. Et puis, on voit l'exemple ici des apôtres qui se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ce n'est pas toujours pour le nom de Jésus qu'on va souffrir sa job, mais au moins que ce ne soit pas justement qu'on souffre. Et il donne la précision ici, « En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce. » Il répète, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Et on a besoin de qu'il nous enseigne cette vérité-là. Parce qu'une grande partie de la chrétienté ignore et ou nie la vérité que l'épreuve et la souffrance font partie du plan de Dieu. Et c'est un peu le but de mon étude sur 1 Pierre, c'est moi j'ai besoin d'apprendre à gérer la souffrance et je vois que généralement, dans le christianisme de nos jours, il y a un courant de pensée qui est totalement différent. Et c'était pour mettre en garde à ce niveau-là. Et c'était concernant l'évangile de la prospérité, de l'abondance, de la richesse. En anglais, il dit « Health and Wealth Gospel », l'évangile de la richesse, de la prospérité et de la santé. Il y a des théories, des doctrines, de paroles de foi, « Word of Faith ». Proclame-le et réclame-le. « Name it and claim it ». C'est difficile de définir cette doctrine-là, parce que ce n'est pas structuré, il y a plein d'enseignants, mais on reconnaît bien, grosso modo, l'idée. C'est une doctrine voulant que la bénédiction financière ou matérielle soit la volonté de Dieu pour les chrétiens et que les paroles de foi une chose, tu as une parole de foi, crois-y, là. Dis-le, puis crois-y fermement, puis ça va te réaliser. Dieu doit te le donner.
Ah, ouais.
OK. Parole de foi et les dons à des organismes chrétiens vont augmenter la bénédiction matérielle du croyant. Là, ça a l'air peut-être pas aussi vendeur, là, je suis pas bon vendeur pour ça, mais pas aussi vendeur que ce l'est, mais ça sent vraiment attrayant. Intuitivement, le fun. Et puis, juste pour dire que c'est un mouvement mondial dominant. C'est pas juste marginal. Il y a eu des sondages qui ont été faits dans le livre « Blessed » de Kate Bowler. Elle a toutes sortes d'études. Deux tiers des croyants chrétiens sont convaincus que Dieu désire ultimement leur prospérité. Il y en a beaucoup aux États-Unis, mais à travers le monde. Apparemment, les preachers de l'Évangile de prospérité, ils peuvent acheter en Afrique là, les ondes à la télévision, puis ça passe en 24 heures sur 24, ces messages-là, en Ouganda, au Nigeria. Il y a 500 000 de chrétiens anglophones en Afrique. Et puis là, ça gobe ça, ça l'avale ça. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin, mais ils vont soutenir, ils vont donner financièrement pour pouvoir être bénis en retour. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Et là, je ne dis pas là, qu'il faut glorifier la souffrance en soi, puis démoniser le succès. Parce que ces gens-là vont dire, « Ouais, ben, eux autres, là, t'sais, c'est ça, roule-toi par terre dans la poussière, là, hein, t'es-tu content, là? » Comme si c'était bien de souffrir. Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas pour démoniser, « Ah, toi, tu fais bien de l'argent. Pas bon chrétien, toi. » Non, c'est pas ça l'idée du tout, de tomber ni dans l'autre excès. Et je dis pas aussi que ceux qui propagent ce mouvement n'enseignent pas aussi des vérités importantes. Oui, il y a beaucoup de vérités importantes. Il y a beaucoup de consolations qui nous sont enseignées par ces personnes-là. Mais vous savez, le discernement, c'est pas juste faire la différence entre ce qui est bien et mal, entre ce qui est vrai et faux. Le discernement, c'est de distinguer entre ce qui est presque vrai et faux. Et il y a des choses qui sont presque vraies, ou qui sont vraies, mais mélangées avec, dans un contexte, puis bien packagées pour qu'on avale le presque vrai, qui devient un mensonge total. Et un des passages que les évangélistes de la prospérité sur lesquels ils s'appuient, beaucoup sur le livre de Malachie, où est-ce que ça dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes ». Là, apportez votre argent à l'Église, c'est important. Pourquoi? Regardez qu'est-ce que la parole de Dieu dit. « Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Hey, vous allez en avoir dans le ciel, il y en a de l'argent. Là, je vais ouvrir les écluses pour vous, vous allez être bénis, là, vous ne saurez plus quoi faire avec. « Si je ne répands pas sur vous la bénédiction et l'abondance. » Fait que c'est des textes comme ça, tu dis ça, hein, ça ressemble à ça, hein? Puis ça a de l'air vraiment comme ça, hein? Qu'est-ce que tu fais, là? Parce que nos amis qui étaient dans le Colisée, là, avec les lions, là, c'était pas tout à fait la bénédiction en abondance qu'il y avait, mais comment qu'ils n'ont pas compris ce verset-là, eux autres? Comprenez le questionnement. Et il y a des études qui ont été faites un petit peu sur cet évangile de prospérité. Dans les années 1900, il y avait des prédicateurs, puis là j'ai mis comme un échantillonnage, Kenneth Hagin, ça a recommencé surtout là, dans les années 50 à 80, puis il y a eu des gros scandales, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jim and Tammy Baker, puis Jimmy Swaggart. Il y avait un scandale financier, sexuel, Jimmy Swaggart avec des prostituées, puis tout ça, puis là ça a fait bien du mal à l'évangile de la prospérité. Puis ils ont classé ça un petit peu, il y avait un mouvement afro-américain, puis un mouvement chez les Blancs aussi, Oral Roberts, qui était dans ce temps-là aussi, puis qui avait là, son université. Puis ça marchait fort, mais avec les scandales, ça a planté un peu. C'était difficile de continuer là-dedans. Mais il y a un nouveau courant. Là, ils appellent ça « soft prosperity » ou « prosperity light ». Plus nuancé, plus doux. Le message est moins direct, mais dans la même direction. Et là, on retrouve des noms comme Joel Osteen. Vraiment des bonnes choses qu'il dit, mais dans un contexte où c'est faux. Joyce Meyers, Paula White, et du côté afro-américain encore, il y a tout un mouvement là aussi. Là, ça peut sembler, c'est rare à l'Église ici qu'on parle contre du monde, en les nommant. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ils parlent dans le dos du monde. Fait que je vais essayer de présenter des justifications. Est-ce que c'est par jalousie, parce qu'eux autres ont tellement d'argent, que les méchants chrétiens sont jaloux d'eux autres, qu'ils vont parler dans leur dos? Non, je pense qu'il y a des erreurs véritables dont on doit se préserver. Je vais présenter quelques autres versets un peu sur lesquels il s'appuie, puis ensuite je vais présenter pourquoi ça me semble être une erreur théologique. Ici, on a Joel Osteen, qui a vendu 7 millions d'exemplaires de son livre « Your Best Life Now ». Tu peux avoir, si tu crois là, que t'as des, par ta foi là, que tu t'empares des promesses de Dieu, tu peux avoir la belle vie dès maintenant. Et puis, regarde, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Écoute, t'es l'enfant du roi des rois. T'es pas né pour un petit pain. Voyons donc, tu devrais être béni. Dieu, c'est ton Père. Demande-lui, puis tu vas recevoir en abondance. Et donne, il va être honoré par ça. Donc, c'est dans la Bible, hein? Ça soulève questionnement. Un autre passage aussi qu'il utilise. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Tiens, je vais t'en donner un petit peu plus, puis amuse-toi avec ça. C'est l'abondance. Et puis là, il l'interprète. Bien, c'est un verset qu'on aime, ici à l'Église, mais une abondance de vie, une abondance spirituelle, une abondance de guérison intérieure, mais ce n'était pas nécessairement des billets verts. Un autre verset, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. » Hey, selon sa richesse. Hey, wow, c'est ça, hein? C'est merveilleux. On va-tu l'avoir? « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en santé. » Fait que health, la santé. Puis la richesse, comme prospère l'état de ton âme. On voit bien que c'est autre que spirituel. Et là, tu te demandes, tu te poses des questions, quoi faire avec tout ça? Puis le monde non chrétien s'est apparu dans le Time Magazine en 2006. Posez des questions, il y a des mega-churches là, de 30 000 personnes, puis qui croient, puis qui ont, hey, sont riches, sont à craquer. « Does God want you to be rich? » Puis les pasteurs, ils ont des Mercedes, des Rolls-Royce, pas juste une, des avions. Et puis, les non-chrétiens, ici dans Time Magazine, se questionnent. C'est-tu vraiment ça? Puis il dit, « A new gospel », c'est un nouvel évangile. Ils reconnaissent que c'est pas le message que Jésus avait donné, mais c'est, ils sont confus. Puis avec des paroles comme ça ici, il saute un petit peu le début du verset, là, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. » Mais là, il insiste sur la fin, « Qu'il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous nous en jouissions. » Pas de mal à en jouir. L'abondance, c'est Dieu qui la donne. Je suis béni. Tu devrais être béni toi aussi. Et puis, un de ceux qui... Il y a comme un petit scandale présentement, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est un monsieur qui s'appelle Creflo Dollar. Il a vraiment le bon nom. Et lui, Dieu lui a dit qu'il fallait qu'il s'achète un Gulfstream de 70 millions de dollars. Puis là, ces non-chrétiens, ils se disent, « Coudon, c'est quoi cette affaire-là? T'sais, moi, j'étais PDG d'une grosse compagnie, puis j'en ai pas de... » Puis Dieu lui a dit, là, lui... Puis là, il y a eu toute une enquête, là, quelques années aussi, par le fisc américain, avec Joyce Meyers, Paula White, puis Benny Hinn. Ces gens-là, là, aucun compte à rendre. Ils sont même pas imposés dans leur business. Ils reçoivent de l'argent de tout partout. On ne sait pas d'où ça vient, où ça va, combien ce qu'il y en a. C'est louche. Puis là, il se dit, il voit bien, là, ça n'a comme pas d'allure. Il dit, ouais, ben les avions, ils partent pas selon mon horaire. Moi, il faut que j'aille justement en Afrique, en Ouganda, au Nigeria, puis qu'il y a bien du monde qui veulent être béni par mon message. Fait que pour moi et mon équipe, j'ai besoin, c'est sûr, c'est un besoin pour servir. Puis là, sous la critique, il avait dit, oh non, je... Puis là, il est revenu à charge. Non, c'est Dieu qui me l'a dit, il me le faut, cet avion-là. C'est bien important. Puis il avait écrit son livre ici, « You're supposed to be wealthy. » T'es supposé être prospère et riche. Puis si t'es pas riche, ben t'as un méchant problème. C'est de ta faute. T'es supposé être riche. Là, un chrétien qui se gratte la tête, ça a l'air comme un peu louche. Puis on sait bien qu'il y en a qui ont le tour. Fait que c'est-tu par jalousie de parler contre M. Dollard? Ou qu'il y a vraiment un danger là-dedans? D'attiser en nous la soif de posséder. Je sais, j'ai à combattre contre ça dans mon cœur, des pensées impures, d'être attaché, de convoiter, attaché à l'argent. Mais il y a un danger là-dedans. Et je pense qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas préparés. Ils s'attendent, ça crée des attentes. Dieu va me bénir. Ben oui, Dieu m'aime, on me le dit depuis tout à l'heure. Puis pourquoi que je souffre? Et que là, qui chute dans la foi à cause de la souffrance. Si on s'attend à ça, puis on a des traitements de persécution, on va chuter. Et il y a des versets, Jésus, il avait averti, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. » Et il l'a dit d'avance, parce que quand ça va venir, check-toi bien, sois prêt. Il dit, « Je vous ai dit ces choses. » Ça continue là, un petit peu plus loin, quelques versets. Jean 16, 1, « Afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Parce qu'elles le deviennent. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Il n'est pas juste. Il me semble que je ne mérite pas ça. Si Dieu était bon... Il me semble que ça irait pas mal de même. Puis là, tu vois le processus qui s'amorce de doute, où est-ce que la foi est ébranlée, les fondements s'écroulent à cause d'attentes que « you're supposed to be wealthy ». Ben oui, il me l'a dit, puis il garde, lui, tout l'argent qu'il a, c'est sûr, c'était un bon chrétien, c'était un docteur, Creflot. Il savait, lui, mais il y a une puissance d'égarement. Puis ces gens-là sont fascinants à regarder. C'est des vrais showmen, Colin, ou showwomen. C'est fascinant. C'est beau à voir. Ils sont convaincants. Mais c'est ça, c'est une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre culte à Dieu. C'est ce qu'on voit avec l'État islamique. Croyant rendre un culte à Dieu. Et si ça venait ici, une persécution, combien d'entre nous là, se remettraient tout en question? Il me semble que Dieu m'aime, je suis son enfant. Oui, mais tu n'as pas bien compris. Il y avait un contexte, puis la souffrance, il y a une intention derrière ça. Comprenez l'importance de répondre à ces questions-là? Paul, dans l'Épître aux Philippiens, disait « Car il vous a été fait une grâce. » Une grâce, c'est un cadeau. Par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, c'est merveilleux, mais encore de souffrir pour lui. Un drôle de verset, hein? Il te fait un cadeau de pouvoir souffrir pour lui. Mais ça, là, si moi je me le rentre dans ma conception de la vie chrétienne, je serais peut-être pas déçu. Et comme les apôtres qui avaient souffert, qui avaient été battus, qui étaient joyeux. Il y a une joie du Saint-Esprit aussi que d'honorer Dieu. Non, la vie chrétienne, c'est pas que Dieu, c'est mon idole qui vient me servir et me glorifier et m'enrichir. Dieu, c'est lui qui mérite toute la gloire. Et si j'ai à souffrir pour lui donner plus de gloire et démontrer à ceux qui me persécutent, que c'est Dieu qui passe en premier et c'est Dieu qui m'a transformé, je suis content de lui rendre gloire comme ça. dans l'Apocalypse, à une des églises, et puis ça me touche de voir, tu sais, à la fin de la Bible, on a encore un message à cette teneur-là. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ah, tu sais que je vais souffrir ça, puis là, tu m'avertis. Mais voyons donc, tu n'es pas capable de changer peut-être les circonstances, puis enlever la souffrance. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Il y a un sens. Il savait déjà, il y avait une intention derrière cette épreuve-là. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Il y a un but. Ça peut aller mal. Hein, avec la photo du lion, puis peut-être qu'il va se faire dévorer, mais il y a un but. Fais-moi confiance. Aïe, aïe. J'ai trouvé ça intéressant ici, cette petite image-là. C'est l'image du jeune homme riche. C'était un homme qui possédait de grands biens et qui était très religieux. Très religieux. C'était un chef. Et Dieu lui avait demandé, « Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras les richesses dans le ciel. » Fait que là, dans l'évangile de prospérité, c'est « Va, donne-le aux pauvres, surtout à moi, à mon ministère, et tu auras des richesses encore plus maintenant. » Tu me donnes 10, il remet au centuple, ça fait 1000. Bon deal. Fait que donne l'argent, puis des fois, on voit des photos, les gens qui viennent en avant, puis qui mettent des billets de 50, puis tout ça, puis là, l'hôtel est couvert de billets. Parce que là, ils donnent l'argent, mais là, ils savent qu'ils vont recevoir de quoi. Mais là, Jésus lui avait dit que tu vas recevoir des richesses dans le ciel. Puis là, la joke, c'est « Donnez toutes mes richesses et te suivre. » Très drôle. Sérieusement, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Puis là, Jésus, il est bien sérieux. Puis il avait dit à ce jeune homme riche-là, « Il est impossible à ceux qui sont riches de rentrer dans l'eau. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. » Parce que c'était un danger, un Dieu, maman, qui vient nous séduire. Il y a vraiment un danger. Et il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, de tout amour de l'argent. C'est vraiment un danger qui avertissait. Ça dit dans Hébreu, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous ce que vous avez. Fait qu'ils mettent bien en garde. Il y a un danger là-dedans. Puis moi, je le sens aussi dans mon cœur. Des fois, je vois un attrait de ce danger-là. Et je me dis, ouh, il faut checker, il faut faire attention à ça. Et j'aimerais ça qu'on parle, dans le temps qui reste, de quelques erreurs théologiques du mouvement de l'Évangile de la prospérité. Et comme je disais, ce n'est pas un petit mouvement marginal, c'est mondial et c'est dominant. Je pense que la plupart dans le christianisme de nos jours adoptent ces convictions-là. Pas tout le monde, mais donc il y a un danger, une menace. Et ça dit dans la théologie que l'alliance avec Abraham nous donne des droits à une abondance matérielle. Abraham, c'était un des pères d'Israël, un ancêtre d'Israël. Et puis Abraham, il était très riche, immensément riche. Il était millionnaire, plus que millionnaire. Et puis ça dit, afin, dans Galates 3:14, il n'invente pas, il dit, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens, c'est-à-dire nous, son accomplissement en Jésus-Christ. Fait que si on croit, la bénédiction d'Abraham nous est due. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais il y a un problème. C'est que la suite du verset, c'est dit, « Et que nous recevions par la foi beaucoup d'argent. » Non, l'Esprit qui avait été promis. Fait que c'est pratique là, de prendre une partie du verset et d'annoncer ça comme étant la bonne nouvelle, que l'alliance avec Abraham, ça inclut l'abondance matérielle, parce que, regarde, Abraham, tout le pays que tu vois, je te le donnerai, tu seras en bénédiction pour tout le monde. Hey, ben, oui, moi aussi. Mais là, ce qu'il annonce, c'est que non, c'est qu'on reçoit par l'Esprit, c'était une promesse spirituelle, à teneur spirituelle. Et je veux pas salir l'argent, c'est un bon outil et un mauvais maître. Mais Jésus n'était pas attaché à l'argent. Jésus comme méprisait l'argent. Il avait appelé ça les richesses injustes. Et on va voir d'autres versets où est-ce que Jésus a mis en garde contre l'amour de l'argent. Donc, c'est une première erreur dans la théologie que de penser que la bénédiction d'Abraham donne droit à une abondance spirituelle. Deuxième erreur, le sacrifice de Jésus, ah, ça, il croit, mais ça couvre aussi le péché de la pauvreté matérielle. Ah, ouais. C'est intéressant. Oh, oui, on a des versets, on a des versets. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Alors, Jésus, il en avait de l'argent, lui, dans le ciel. Et Jésus, même sur la terre, il y en a qui enseignent qu'il était plein à craquer. Il y avait des belles maisons puis tout ça. Ah, ouais. Puis, mais quand même, de pauvre qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est-tu pas assez clair, ça, qu'ils vont te dire? Ouais, non, c'est vrai, ça ressemble à ça. Mais, si on lit dans le contexte, cinq versets plus loin, ils oublient que notre richesse n'est pas pour nous, mais pour le service. Parce que ça, ils disaient ça aux Corinthiens, justement pour donner. Tu vois, tu en as de l'argent, tu en as des bénédictions, tu es enrichi, mais c'est afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, pour qu'ils puissent donner de l'argent aux chrétiens de Jérusalem qui étaient dans la famine. Et juste peut-être pour dire, concernant l'erreur théologique que le péché, la pauvreté matérielle que le sacrifice de Jésus le couvre, Jésus avait quand même vraiment bien précisé. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. C'est comme clair, ça aussi. Où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Vise ces choses-là. Laisse-toi pas distraire par cette illusion. C'est comme un écran de fumée. Si tu regardes à ça, c'est des richesses injustes. Où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ah, c'est ça, Jésus qui disait aussi. C'est rare qu'il dise ça avec soin. Gardez-vous avec soin. Fais bien attention. De toute avarice. L'avarice, c'est l'amour de l'argent. Oh, je ne suis pas en avoir, moi. Je ne suis pas comme Séraphin. Tu sais, non, mais quand tu perds de l'argent un peu, ça fait mal. Ça poigne droit au cœur. Touche au portefeuille de quelqu'un, ça fait mal. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il continue à avertir, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'était le Dieu de l'argent. Et pourquoi qu'il l'a spiritualisé comme ça? Parce que Satan se sert de l'argent pour séduire nos cœurs. L'amour de l'argent. C'est un bon outil, mais un mauvais maître. Troisième erreur théologique, c'est la loi de compensation. Le chrétien donne afin de recevoir une compensation matérielle de Dieu. Hein? Si vous amenez votre dîme au temple, il va ouvrir les écluses des cieux. Il va te compenser. Et puis Dieu avait dit, celui qui aura donné père, mère, puis tout ça, va recevoir au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres. Hey, des terres, c'est bon ça, des maisons, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Fait qu'il y a, tu vois, il y a une compensation. Fait que c'est un bon deal. Tu donnes 10 piastres, 100 piastres, plus tu donnes, dans le fond, imagine si tu donnes 1000 piastres devant Dieu. Viens, approchez-vous ici à l'autel et mettez devant beaucoup d'argent. Vos cartes de crédit sont acceptées. Et puis là, le deal, c'est que tu vas recevoir 100 fois plus. Hey, c'est bon, hein? Puis regarde, moi, je n'ai de l'argent. Tu sais, ils se donnent un exemple, puis ils en reçoivent beaucoup. Puis là, tu te dis, ouais, c'est comme dans la Bible, ça me semble. Oui, mais il y a un contexte aussi. dans les Écritures. Fait qu'il oublie que le disciple doit donner avec des motifs purs, sans espérer recevoir en retour. Fait qu'en voilà un autre verset. « Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Donc, les motifs purs. Si tu donnes dans le but de recevoir, là, ça, c'est l'instinct religieux. Toutes les idoles qui sont développées, là, une idole. Fait que là, je viens ici, fait que là, il y a une transaction. Puis c'était ça, même dans les tribus païennes. Fait qu'on a une belle idole, on la recouvre d'argent ou d'or, et là, il y a comme un deal. Tu lui apportes des offrandes, puis elle doit te bénir. Fait que ta femme va bien accoucher. Ton champ va bien rapporter. Puis ta business va bien aller. Fait qu'on fait un deal. Puis si l'idole ne fait pas sa job, bien, on va la changer. Mais c'est ça, ça devient avec Dieu. Dieu devient mon idole. Là, c'est comme le rêve américain. D'avoir une belle maison, une belle famille, deux chars, puis tout ça, là. Mais pour aider mon rêve américain, bien, Dieu va être avec moi dans mon équipe. Puis là, je vais vraiment croire en lui, puis je vais le servir, puis je vais y apporter de l'argent. Mais lui, il faut qu'il fasse sa job. Lui, il devient mon serviteur, mon idole. Là, il faut qu'il me bénisse au centuple. Puis même, il y avait une étude faite par le journal The Atlantic qui disait, tu sais, la bulle immobilière aux États-Unis, qu'une bonne partie dit, mais pas mal, hein? Il y a des chrétiens qui se sont fait poigner là-dedans. Parce qu'ils encourageaient, hey, tu es un enfant de Dieu, achète-toi une maison, mais pas n'importe laquelle, tu sais, une belle maison. Tu n'es pas tout à fait capable de payer, mais Dieu va te bénir. Puis, tu y crois-tu ou tu ne crois pas? As-tu la foi ou non? Bien, achète-toi une belle maison, puis tu vas voir le Seigneur va te mettre sa main sur toi, bénissante, pour te. Déjà par la foi, parce que tu crois, tu t'es acheté la belle maison. Puis là, bien là, les taux d'intérêt ont augmenté, ils ont tout perdu. Bien, plusieurs chrétiens avaient fait ça, puis là, ça a fait comme un mouvement économique. Et il rattachait en partie la bulle immobilière à cause du comportement de certains de ces chrétiens de l'Évangile de prospérité. Une autre erreur théologique, c'est que la prière est un outil qui oblige Dieu à accorder la prospérité. Puis là, dit de même, c'est pas vendeur, là, mais un verset à l'appui, là, tu sais, Jacques 4, 5, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'avez pas la foi, puis demande. » Puis regarde, moi, je suis béni, puis mes autres aussi, mes chums sont bénis. Il faut que tu aies la foi. Puis la prière, Dieu est obligé. Il doit, pour honorer sa parole, il est obligé de te bénir. Comprenez l'idée? Puis là, tu t'interroges encore. Oui. Mais il y avait un contexte. Mais ils oublient le verset suivant qui enseigne que le disciple ne doit pas demander pour manipuler Dieu à des fins égoïstes, qui ne glorifient pas son nom. Fait que Jacques 4, 3 dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Donc, c'est juste d'identifier là-dedans que ça vient éveiller en nous notre soif de posséder, de convoiter et de mettre en garde contre ça. La prière, ce n'est pas une force. La foi, ce n'est pas une formule magique. Dis ça, là. Puis crois-y comme si, tu sais, la prière, quand tu fais une prière, tu es en train de dire que tu n'as pas la puissance. Tu demandes une faveur. Pourrais-tu, s'il te plaît? Fait que pense pas que ta prière a une force. Tu es en train de dire que tu n'es pas capable. La foi aussi, la foi, ce n'est pas une formule magique. Il y a des pouvoirs spéciaux, comme dans les tribus païennes, où est-ce qu'il y a un chaman qui dit des formules magiques. Non, la foi, elle ne peut rien. C'est la petite foi dans un grand Dieu qui peut beaucoup. Et si, tu sais, l'autre, la logique qui vient nous heurter, dans le fond, Étienne, un serviteur fidèle, comme ça se peut pas, que le Seigneur bénissait son enseignement, sa parole, par des miracles, qu'il l'appuyait. Il n'a pas compris, lui, l'Évangile de la prospérité, quand il s'est fait lapider. Voyons donc, Étienne, si tu avais eu la foi, voyons, tu aurais pu t'en sortir. Paul, tu sais, qui s'est fait mordre par un serpent. Puis Paul, il en a souffert, tu sais, des naufrages, dans la détresse, mais pas abandonné. Dans l'extrémité, ayant faim, dans la nudité, j'ai servi. Puis la mort de Christ s'exerçait en moi afin que sa vie puisse être manifestée. Et dans la souffrance qu'avait Paul, la vie de Christ se manifestait. Des miracles venaient. Et oui, il y a la bénédiction. Oui, il y a des délivrances, mais dans un contexte aussi qui accepte la souffrance pour le Seigneur. Pierre, qui a écrit la lettre en question, s'est fait crucifier à l'envers parce qu'il ne voulait pas être crucifié comme Jésus. Mais Pierre, tu n'as pas compris là, comment être béni? Tu sais, il y en a... Tous les apôtres, sauf Judas, sont morts martyrs. Mais quelque part, on a un contexte qui est fort, qui ne marche pas avec l'évangile de prospérité. Et que si on ne comprend pas ça, qu'on se laisse embarquer par le courant, on va être déçu. Et de regarder dans le monde, à chaque mois, l'Église, en 2015, à chaque mois, 322 chrétiens, en moyenne, sont tués pour leur foi. Killed for their faith, each month. 214 églises ou propriétés détruites. 772 actes de violence contre des chrétiens. Le viol. D'être battu, d'être enlevé, violé, arrêté, un mariage forcé. Puis des gens prient, pleurent, souffrent, par mois. Aujourd'hui, au mois de juillet, que ça l'arrive, encore peut-être plus que ces statistiques-là d'avant. Ils n'ont pas compris, eux autres, l'évangile de la prospérité. Mais Dieu est au-dessus de tout ça. Il y a un but dans la souffrance qu'il porte et qu'il y a des gens qui viennent au Seigneur à travers ça, malgré ça. On va terminer le passage. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de nuances, ce n'est pas difficile à comprendre. Vous laissez un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en remettait à celui qui juge justement, avec confiance. Je sais, lui aurait pu, bien plus que nous, se défendre. Quand il était... insulté, quand il était maltraité, il s'en remettait à celui qui juge justement. Dans 1 Pierre, on retrouve ça. Ils remettent leur âme au fidèle Créateur, afin que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur. Et la fin du passage, lui qui a porté nos péchés dans son corps, à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. Il parle de ses blessures. Et je reviens avec ce verset-là un peu plus tôt dans l'Évangile. « Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Il le faut, puisqu'il le faut. Il y a un but, il y a un sens. Et en finissant, peut-être que tu dis « Je ne suis pas capable ». Moi, là, c'est trop lourd. Entendre ça, là, ça me démoralise bien raide. Si c'est ça, la vie chrétienne, là, je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, je ne suis pas un djihadiste. Puis, me faire sauter, c'est pas ça l'idée là, non plus, là, mais donner ma vie, non. C'est vraiment lourd. Pourquoi qu'il écrit ça? Ça me démoralise. Puis, juste cette pensée-là, la vie chrétienne n'est pas difficile ou très difficile, mais impossible par nos propres forces, par le légalisme. Paul avait dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Fait que, comment je fais pour gérer ça? Je me présente devant lui, dis-y, pas capable, mais je t'offre ma vie. Prends-la. Merci là, que je ne souffre pas comme mes autres frères et sœurs, mais il y a une grâce. Et puis moi, mon espoir, ce n'est pas dans ma force, c'est dans ta grâce. Tu vas me soutenir, mais ce sera ce que tu voudras. Mais avec ta grâce, ça va être assez. Comprenez l'idée? Là, c'est là qu'il faut la mettre en action, notre foi. Que ce n'est pas un menteur, il va nous soutenir. Ce n'est pas un menteur, il le sait, il est au contrôle. Il sait qu'il va avoir des épreuves. Ça a-tu de l'allure, ça? De venir quand même à lui avec notre lourdeur de ce matin, puis de s'offrir à lui, puis de se faire confiance. On va prier justement dans ce sens-là. Seigneur, tu as été tout seul, toi, quand tu as prêché, parce que tous t'ont abandonné, tu disais. Et on comprend comment c'est difficile de te suivre. Et notre chair, elle se révolte à l'idée de suivre Jésus, même dans sa souffrance. Mais on veut venir à toi. On est limité, tu le sais, toi. Mais on se présente devant toi. On s'offre nos membres, nos corps, notre volonté. On s'offre à toi. Et on veut te faire confiance. Soutiens-nous maintenant. Encourage-nous. Donne-nous la foi de te faire confiance qu'à travers ces épreuves-là, tu vas être là. Et que tu as un but. Ce n'est pas inutile. Que ça va resplendir de gloire. Resplendir de joie par après. Qu'il va y avoir une victoire. Et qu'il va t'apporter la gloire. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas te servir de toi comme une idole. Et si on le fait, on s'en repent. On veut te servir. Et que même nos souffrances servent à ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.